Bien. Alors nous allons entamer la troisième partie de cet après-midi sur le dessin de presse, qui en soi est un événement, enfin l'après-midi, parce que je crois que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas consacré autant d'heures au dessin de presse. Faujour, si tu pouvais arrêter de parler.
Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a ?
Tu dessines, tu es là pour dessiner, pas pour parler. Donc je disais que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un organisme officiel est aussi important que la BPI consacre autant de temps au dessin de presse, donc avec des éminents spécialistes que je vais vous présenter. Donc Odile Conseil, qui travaille à Courrier International, Courrier International publie beaucoup de dessins qui viennent de l'étranger. Ils ont au sein du journal, ils ont une agence de presse. Et Odile Conseil fait aussi une petite émission sur un dessin chaque semaine sur Arte. Il faut prendre le micro.
Non, enfin, elle est mensuelle.
Elle est mensuelle, l'émission. J'étais trop optimiste.
C'est une émission qu'on peut présenter pour répondre un peu à ce que disait Charles tout à l'heure, avec une légère vocation pédagogique, puisqu'il s'agit de montrer comment un événement de l'actualité internationale, là, celle que j'ai enregistrée ce matin à Strasbourg, qui sera diffusée samedi prochain, c'était sur la crise boursière, donc comment un événement est vu par les dessinateurs du monde entier. Donc là, à travers, il y avait 12-13 dessins.
Sur le même événement. Voilà. Ils sont diffusés soit sur le site de Courrier International.
Certains sont publiés dans Courrier, pas tous, parce qu'on reçoit chaque jour une masse de dessins qui sont évidemment pas tous publiés, qui servent éventuellement au site, qui servent aux éditeurs scolaires, puisque certains en demandent régulièrement, qui sont stockés pour usage un jour ou l'autre.
Donc sa vision du dessin est intéressante, parce que déjà elle va nous parler de ce qui se fait en dehors de Charlie Hebdo, Ciné Hebdo et Canard Enchaîné, ce qui déjà élargit le spectre. Ensuite, vous avez Alain Blaise, qui est directeur artistique de Libération, quotidien français, qui a une politique bien affirmée sur le dessin, notamment avec un dessinateur régulier qui est Willem, et aussi l'intervention d'autres dessinateurs qui sont plus des illustrateurs dans les pages du journal. Donc c'est Alain Blaise qui dirige tout ça. Je passe à Bernard Fournier, qui est directeur artistique, qui a été directeur artistique de l'équipe magazine, qui lui aussi a fait travailler beaucoup de dessinateurs à l'équipe magazine, Cabu, Desclozeaux, enfin plein de dessinateurs. Il est aussi le concepteur d'expositions sur le dessin de presse. Il a réalisé l'exposition de Cabu, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition Cabu et Paris, qui a eu lieu l'an dernier, je pense. Il y a un an déjà, à la mairie de Paris, et qui présentait l'œuvre d'un des plus grands dessinateurs actuels d'aujourd'hui. Il est aussi directeur de collection aux éditions Le Layer, et il fait aussi des livres de dessinateurs. Alors toujours Cabu, Le Fred Touron, Willem, peut-être Honoré bientôt. Donc il nous parlera de son rapport à l'image et de la présentation de l'image pour toucher un public à travers les livres et à travers les expositions. Et je termine avec Luce Mondor, qui est enseignante à l'école Estienne et qui travaille beaucoup avec les élèves de l'école Estienne justement sur le dessin de presse et à travers le prix Presse Citron qui depuis 4 ou 5 ans... 20 ans.
Il est beaucoup plus vieux que ça, il a 16 ans. Et je suis venue avec mon badge Presse Citron, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Il s'agit d'un concours de dessin de presse, bien sûr.
Excusez-moi, je me bats avec le micro. Donc voilà. Donc on va commencer par une présentation d'Odile Conseil sur le dessin dans le monde.
Il y avait une question qui était posée qui parlait de l'avenir du dessin de presse, donc j'ai essayé gentiment, bon élève, de répondre à la question et d'y répondre même en deux parties comme on fait dans certaines grandes écoles, paraît-il. L'avenir du dessin de presse, moi je pense que dans l'absolu, il est brillant, il est brillantissime, parce que le dessin de presse, ça c'est une théorie que j'ai développée il y a quelques années, le dessin de presse ça a trois fonctions, ça fait rire, réagir, réfléchir. C'est les trois R du dessin de presse. Et on est à une période où on a sans doute beaucoup besoin de rire, pas mal besoin de réfléchir et aussi de réagir. Il y a un des dessinateurs allemands que j'ai... Non, ça va pas dans les R. Il y a un des dessinateurs allemands que j'ai interrogé, puisque j'ai posé la question à plusieurs des dessinateurs avec qui je suis en contact assez régulièrement sur cette question de l'avenir du dessin de presse, et qui lui regrette que les dessins de presse actuellement dans la presse allemande, disait-il, des dessinateurs de la classe des plus jeunes étaient trop inoffensifs. Ce qui laisse penser, et je suis assez d'accord avec lui, qu'un dessin de presse doit être offensif. Donc, le mieux c'est quand même que je vous en montre. Où est-ce que j'appuie pour les montrer maintenant ?
Sur les flèches ?
Non, parce que... Attends. Ah oui, c'est pas... Voilà. C'est une petite sélection de dessins que j'ai fait un peu rapidement pour vous montrer un peu les différents types et comment les dessins peuvent nous faire rire et réagir et réfléchir, ou l'un ou l'autre, l'idéal étant de faire les trois à la fois. Donc ici, c'est Arfeld, ce dessinateur allemand qui est un vieux dessinateur qui décide dans Neues Deutschland, à Berlin. Bon, c'est un dessin du genre symbolique, mais c'est un dessin qui dit, c'était au moment de l'accord de gouvernement entre Mugabe et Tsvangirai, qui dit des choses qu'on ne dit pas comme ça quand on écrit. Encore mieux, celui-ci de Dave Brown, dessinateur britannique de The Independent. Donc, toujours pareil sur l'accord Mugabe-Tsvangirai. Je ne pense pas qu'on des mots qui disent ce qui est montré seraient publiés dans un journal. Donc là, avec ce dessin de Haddad, on est dans le genre de dessin que je qualifierais de percutant. Haddad, c'est un dessinateur libanais qui vit en France, qui vit en région parisienne et qui dessine pour le quotidien Al Hayat, qui est un quotidien panarabe édité à Londres. Donc ça, c'est un dessin sur les premiers jours de la crise boursière, qui était juste dans la foulée de l'anniversaire du 11 septembre. J'imagine que tout le monde l'aura reconnu. Bon, là, on est dans le genre de dessin qui fait rire. Je vous laisse lire et éventuellement en rire. C'est Glaise, bon, c'était juste après l'élection présidentielle, évidemment. C'est Glaise, donc, qui est un dessinateur qui est d'origine française, qui est allé faire son service en coopération au Burkina Faso et qui n'en est jamais parti, qui a pris la nationalité burkinabé et qui dessine pour un journal satirique au Burkina qui s'appelle Journal du Jeudi. Et on peut rire de tout, oui. C'est ce que pense en tout cas Mix et Remix, qui est un dessinateur suisse que les lecteurs de Ciné Hebdo d'ailleurs auront vu aussi dans ce journal. Donc il y a vraiment le chic pour s'emparer de tous les sujets. Là, c'était l'histoire du mec en Autriche qui avait fait quelques enfants à sa fille enfermée dans une cave depuis plusieurs années. Vous avez le temps de voir, ça va ? Bon, là, pareil, ça dit beaucoup sans mots. Le principe de Burki, dessinateur suisse, c'est de faire des dessins dans lesquels il n'y a jamais un mot, jamais une légende. Alors, bon, c'est aussi une question sur laquelle on peut revenir, parce que c'est une tendance de beaucoup de dessinateurs. Un dessin qui n'a pas de légende est un dessin qui peut se vendre beaucoup plus facilement dans tous les journaux du monde, qui est plus facilement exportable. Et il y a quand même, eu égard au nombre de syndications, j'en reparlerai plus tard, qui se développent, il y a quand même une tendance très nette à faire du dessin sans parole, bon, qui est parfois aussi plus facile. Bon, je vous en passe quelques-uns qui vous montrent bien, toujours pareil, le résumé du vraiment, enfin, que je trouve saisissant d'une situation. Donc là, c'est la mise en cause des agrocarburants face à la faim dans le monde. C'est Tom qui est un dessinateur néerlandais. Et vous voyez que c'est écrit en anglais, puisque ce dessin est destiné à être vendu à l'international, disons. Bon, je reviendrai là-dessus après, parce que c'est... Il n'est pas du tout à sa place, celui-là, mais enfin, c'est sur la férocité des dessinateurs britanniques sur laquelle je reviendrai. Donc, en gros, je pense que ex nihilo, le dessin de presse a un avenir, enfin, on en a besoin, ou on en aurait besoin, mais que, effectivement, la situation n'est guère brillante, pour tout dire. Économiquement parlant, on parle d'Internet, bien sûr, mais est-ce que quelqu'un ici, parmi vous, parmi les dessinateurs, connaît un des dessinateurs qui vit en publiant des dessins sur Internet ? Si la réponse est positive, ce sera tant mieux. Mais moi, pour ma part, j'en connais pas. Internet, c'est une vitrine, c'est ce qu'on veut, mais c'est pas un lieu où on peut gagner sa vie, me semble-t-il, ni en France ni ailleurs. Parce que par ailleurs, effectivement, dans les journaux, les rédactions en chef ou directions artistiques ou les gens qui décident ont de moins en moins envie de prendre de risques. Donc, quand on ne veut pas prendre de risques, on ne va pas passer le dessin qui risquerait d'offenser des barbus ou qui risquerait d'offenser telle ou telle communauté. Qui j'ai un dessin à vous montrer, mais je sais plus. Comment je peux accéder à mon truc ? Attends.
Ah, je vais passer un barbu.
Non, c'est pas celui-là. Voilà. Ce dessin de Glaise, donc Glaise dont je vous ai déjà parlé, a été proposé à un quotidien français qui n'a pas passé en disant « Oh là là, mais vous avez vu les nez, on pourrait avoir des problèmes avec ce dessin. » Bon, c'est du dessin de presse, c'est de la caricature qui éventuellement accentue les traits, mais il se trouve que Madame Golda Meir, qui là a un gros nez, avait dans la vie un gros nez. Donc, c'est plus facile de ne pas le passer. Ça s'appelle pas de la censure parce que quand on fait appel justement aux syndications, les syndicats américains sont des regroupements de dessinateurs qui tous les jours donc proposent des dizaines de dessins aux différents journaux qui sont leurs clients. Donc le décideur, rédacteur chef, directeur artistique, ce que vous voulez, a le choix entre 10, 20, 30 dessins. Et quand on a le choix, ben on prend. S'il y en a un qui risque de poser problème, on le prend pas parce qu'il y en a forcément un autre qui sera bien aussi, qui sera très bien à côté. Et à tant faire, autant en passer un bien qui ne pose pas de problème qu'un qui risquerait éventuellement peut-être d'en poser. Donc ça c'est un point. C'est un autre point. Et en plus, j'ai l'impression qu'en France, malgré tout, le dessin de presse est considéré un peu comme un genre mineur. Peut-être qu'on va me démentir, j'aimerais bien, mais il y a eu combien d'articles sur l'exposition de Saul Steinberg qui s'est tenue récemment à la Fondation Henri Cartier-Bresson ? Qui parmi vous est allé la voir ? Qui a déjà acheté un dessin de presse pour le mettre à son mur dans des ventes aux enchères ou des choses comme ça ? En France, le dessin de presse, ça reste un petit dessin. Il y avait un dessinateur du Monde dont le nom m'échappe tout soudain. Celui qui est chilien d'origine. Voilà, non.
Sergueï.
Sergueï, oui. Sergueï, il n'y a pas très longtemps, me racontait en s'énervant qu'il en avait assez qu'on lui demande un petit dessin pour mettre avec un article. Parce qu'il dit, moi, je ne fais pas des petits dessins, je fais des dessins de presse. Alors, effectivement, qui dit petit dessin, c'est un peu dépréciatif, évidemment. Et ça suppose petite chose vite faite sur le coin d'une table et pas bien payée. Bon, et en matière d'exposition, alors je trouve très bien et formidable que Beaubourg fasse une exposition de Gourmelin, mais c'est quand les autres, où sont les autres, où sont les espaces d'exposition en France ? Je pense qu'il en manque sacrément. À Londres, par exemple, enfin, les journaux ont leur responsabilité aussi là-dedans. Hein. À Londres, donc le Guardian, qui a inauguré des nouveaux locaux il y a pas très très longtemps, il y a 4-5 ans, il a créé un espace d'exposition. Et dans cet espace d'exposition, il y a très régulièrement des expositions de leurs dessinateurs maison. Et les dessinateurs maison sont des grands dessinateurs. Et bon, prenez Le Monde, par exemple, il y a un immense hall d'entrée qui pourrait très bien accueillir des expositions, mais c'est impossible déjà d'y rentrer. Il y a une porte tournante, il faut montrer patte blanche, etc. Donc, c'est un lieu vide. Bon, je dis Le Monde parce que je le connais. Hein. Mon journal appartient au groupe Le Monde, donc... Loin de moi l'idée de dire du mal du monde ici. Bon, j'ai fait un premier tour, je pourrais revenir sur des choses après pour ne pas monopoliser la parole.
Oui, bien sûr.
Donc je passe la parole à qui veut.
Oui, oui.
Non, parce que bon, je voulais vous faire part aussi des quelques remarques des dessinateurs que j'ai interrogés sur leur vision à eux de l'avenir du dessin de presse. Alors, Martin Turner, par exemple. Alors, faut que je retrouve le dessin de Martin Turner pour vous montrer... Bon, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Martin Turner, c'est un grand dessinateur. C'est, pour moi, l'un des deux ou trois dessinateurs qui sont des dessinateurs vraiment un peu des intellectuels aussi. Il y a lui, il y a Jeff Tanziger, qui sont des dessinateurs dont on sent qu'ils pourraient écrire, ce qui pour un peu attester ce que disait Charles tout à l'heure. Et donc, lui dit l'avenir du dessin de presse, c'est l'avenir de la presse. Et bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la presse, elle a des difficultés partout dans le monde. Et que un des moyens de se différencier, c'était évidemment, enfin, pour lui, en tout cas, dans son journal, c'est ce que lui dit-il, sa rédactrice en chef, c'est d'avoir des bons dessins de presse. Donc, elle l'incite à ne pas partir à la retraite alors qu'il commence à en avoir largement l'âge. Et elle lui a dit, si tu pars à la retraite, je te confie une mission qu'il faut que tu remplisses absolument, c'est te trouver un successeur. Et dit-il, le seul successeur qu'il trouve, c'est quelqu'un qui a 2 ans de moins que lui. Ce qui est un peu problématique. Donc, j'ai aussi un témoignage qui est assez intéressant de Daryl Cagle. Alors, Daryl Cagle, c'est un dessinateur américain qui est relativement jeune et qui a surtout créé un syndicate, une syndication. Donc, il diffuse tous les jours et par Internet à qui veut, et on peut les acheter très facilement par Internet, toute une flopée de dessins, des dessins américains, mais des dessins aussi de dessinateurs européens, asiatiques, etc. Et lui, voilà ce qu'il me dit. Il dit, je suis en désaccord total avec la plupart des cartoonistes, des dessinateurs, qui pensent que le futur, c'est Internet et que c'est le dessin animé sur Internet, le dessin de presse animé. Eux, ils pensent que c'est le futur parce que techniquement, c'est possible. Mais moi, qui suis à la tête d'une syndication, je dis qu'il n'y a aucun marché pour ça, que personne n'en achètera jamais. En revanche, dit-il, on vend aujourd'hui beaucoup moins de dessins à des grands quotidiens, mais beaucoup plus, à des tarifs évidemment moindres, mais à des sites internet, à des petits journaux, des journaux spécialisés, des journaux régionaux. Ben ça, dit-il, ça vaut aux États-Unis. Et lui le voit, enfin voit un avenir au dessin de presse, mais beaucoup plus morcelé qu'il n'est aujourd'hui. Et puis donc Arfeld, cet Allemand dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui avait un propos très assez amer.
Oui, il dessine derrière nous. J'ai oublié de dire que Foujour allait faire des dessins dans notre dos. Bon, écris. C'est pas lisible, tes textes. Trop tard. Ce qui serait bien, ce serait peut-être d'expliquer ce que sont les syndicats aux États-Unis. Parce qu'en France, ça n'existe pas. On a dans la salle le responsable du site Iconovox, qui essaie de fédérer beaucoup de dessinateurs pour vendre des dessins. Et en France, ça n'existe pas.
Un syndicat, c'est un regroupement de dessinateurs. Enfin, les syndicats aux États-Unis peuvent vendre des dessins ou aussi des articles. Nous, à Courrier International, par exemple, pour republier les articles, on passe assez souvent par des syndicats. Par exemple, le New York Times a son syndicate dans lequel ils mettent en vente et les articles du New York Times et toute une série de dessins qui sont des dessins qui ont été faits par leurs dessinateurs maison. Mais il y a aussi des syndicates, donc comme celui de Daryl Cagle ou comme CWS, Cartoons and Writers Syndicate, qui est assez connu, qui fédère donc des dessinateurs, qui diffusent leurs dessins et après qui payent les dessinateurs en fonction des publications. Et donc nous, cette agence de cartoons qu'on a créée aussi à Courrier International, dont je m'occupe, cherche aussi à faire la même chose, puisque quotidiennement on reçoit donc des dizaines de dessins. Tous ne sont pas publiés, beaucoup sont bien, beaucoup pourraient trouver à être publiés ici ou là. Donc l'idée, c'est effectivement de mettre à disposition de qui veut, éditeurs scolaires, journaux français, étrangers, des dessins. Dans ces cas-là, en général, je crois que les autres syndicats font pareil. Nous, quand un journal, disons, nous paye pour la publication d'un dessin, on fait 50-50 entre le dessinateur et l'agence.
En fait, c'est une agence. Enfin, c'est...
Oui.
Donc, il y aurait deux agences en France maintenant, la vôtre et celle d'Iconovox. Non, mais c'est important à dire parce que c'est un métier très isolé. C'est-à-dire que les dessinateurs travaillent, c'est de l'artisanat. Ils travaillent pour eux, ils vont vendre leurs dessins tout seuls. Enfin, et il y a très très peu de regroupements de dessinateurs pour des tas de raisons.
Mais alors à Courrier, il y a que des dessinateurs étrangers. C'est toujours pareil, quoi. C'est le principe de Courrier, c'est article étranger, dessinateur étranger. Donc c'est vrai que moi, souvent, des jeunes dessinateurs français viennent frapper à ma porte, et j'avoue que je sais pas très bien quoi leur dire.
Il faut leur dire d'aller à Iconovox, parce que Iconovox, ça regroupe des dessinateurs français. Ils ont une base de 17 000 dessins. Donc, on va passer à l'utilisation du dessin en France, et notamment à Libération. Mais là, il va falloir que je me rapproche de là-bas pour montrer les couvertures. Si tu peux commencer à parler du dessin... à Libé, s'il y a une politique éditoriale bien, bien précise.
Oui.
Alain Blaise va vous parler.
Ça marche.
Ça marche.
Oui, alors à Libé, on a beaucoup de chance parce qu'il y a une culture de l'image du journal depuis le début. Et donc le terrain est un peu balisé pour nous. C'est pas forcément un espace volé au texte sur la page, contrairement à plein d'autres supports. Donc, les gens sont habitués, ils aiment bien avoir un dessin dans leur page qui va mettre en valeur leur article. Mais j'ai encore une fois beaucoup de chance parce que il y a très peu de titres qui ont une espèce de confort de travail. Donc, on a pleine liberté pour appeler qui on veut pour tel ou tel sujet. Alors, il y a la une, il y a les espaces de reportage dessiné, les prépublications d'albums, illustrations de tel ou tel sujet. Par exemple, sujet économie, sujet science, sujet faits divers glauques, etc. Et donc, plein d'espaces possibles. Alors, la une, Willem fait deux dessins par jour qu'il nous envoie à midi. En pleine, il choisit ses sujets comme il veut. On choisit, enfin, entre les deux, en général, on a à choisir entre très bien et excellent, ou bien excellent et excellent, donc on est un peu ennuyé. On fait ça donc en fonction soit de l'actu, soit de ce qu'on monte en une, soit de ce qu'on a passé la veille. Et souvent, un de ces dessins fait la une, tout simplement, parce que sans se concerter et sans recevoir aucun coup de fil de la rédaction en chef dès le matin, il a déjà suivi toute l'actualité et devine ce qui va faire la une de tout le reste, radio, télé, etc. Sur les deux dessins, un passe dans la page débat rebond classique et l'autre fait la une. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est la commande de dessin d'illustration pour un sujet donné où la photo est insuffisante ou pas assez forte, ou une photo concept à faire, à shooter dans l'après-midi serait trop juste, on n'a pas le temps, etc. Voilà, ça c'est Bertrand Bebdeum. Ça, c'est un exemple. Alors là, c'est contrairement à Willem qui fait ce qu'il veut et je me contente de placer les titres autour. Là, je commande, je lui dis Bertrand, il ferait ça. Je lui fais un rough, je lui donne les formats. Et là-dessus, il me fait deux, trois esquisses, on choisit.
Tout à l'heure, on parlait de la difficulté à définir le dessin de presse. Là, ça dit une illustration. Ouais. C'est du dessin d'illustration utilisé dans la presse.
C'est ça. Willem a un statut comme Plantu et les autres de rédacteur en chef, en fait, de directeur adjoint de la rédaction, ce qu'on veut, dans la hiérarchie des écrivains. D'éditorialiste, donc il s'exprime par le dessin plutôt que par le... Donc il donne son avis. D'autres dessinateurs sont les deux, ils peuvent faire du dessin d'illustration et du dessin éditorial, par exemple Kilofer. Souvent j'ai demandé plein de trucs pour illustrer des sujets multimédia, etc. Et dans la vie catholique, il avait sa tribune à lui. Et puis d'autres, Bertrand, c'est plutôt illustration pure et dure, et dans certains cas pareil, les gens sont un peu cadrés... Il faut vraiment quelque chose de précis, et donc je leur fais d'autres cas, et ils ont de très bonnes idées tout seuls, je me contente de regarder leur chef-d'œuvre et leur dire je prends, et je mets la typo autour. Alors ça c'est le numéro spécial d'Angoulême qu'on fait tous les ans, tout en dessin, donc c'est un peu d'organisation et de travail, il y a 35-34 commandes à faire, dont 15 que j'étale sur 15 jours, dans la une, là c'est Charles Burns, je l'ai penché un mois avant à peu près, et sinon je commande 20 dessins d'un coup, entre 1h30 et 2h30 pour les sujets d'actu. Le reste est préparé un peu à l'avance. Page portrait, page grand angle, page reportage, la une, et puis et les cahiers, il y a toujours le cahier livre. Voilà. Sardon, deuxième dessinateur éditorialiste qu'on a eu après Willem, pour les 10 dernières années, il est arrivé au journal, et première une, c'était un peu par hasard, c'était un pouce un peu à la Steinberg d'ailleurs, passé je ne sais plus à quelle occasion, et depuis Il fait des sujets un peu plus légers, mais des sujets, et puis de fil en aiguille, au fil des mois et des années, il est devenu un fantastique éditorialiste, par mon avis, un des meilleurs dessinateurs éditorialistes de Paris maintenant. Voilà. Sardon, toujours. Non. Là, c'est moins éditorial. Là, on a plus travaillé. C'était plus illustration qu'éditorial. Alors, voilà, ça c'est Rocco. Ça c'est Internet, évidemment. Alors, certains diront traitement visuel. Bref, Sardon a longuement illustré le multimédia avec son traité hachure-point gratté à la Édouard Goret. Il faisait des sujets super drôles, des dessins très drôles sur le multimédia. Rocco, lui, cumule l'utilisation d'Illustrator, etc. Et parfois, un peu facilement, je dis aussi d'accès à Internet, quoi. Et là, pareil, il choisit son idée, il se débrouille, et puis moi, je mets la typo en même temps, très jolie. Il y a très peu de travail de contraintes avec ces gens-là, c'est toujours parfait.
Alors, qui décide que la une va être dessinée ou pas?
Il y a assez rarement...
À quel moment ça se décide, en plus?
Il y a assez rarement débat, en fait. Ça s'impose d'elle-même, si c'est la guerre, quelque chose, etc. C'est évidemment une photo d'actu. Si c'est une élection comme c'est le cas là, alors en général, la veille d'élection, c'est un dessin de Willem, parce que on sait vaguement la tournure qu'on va prendre, où il y a une petite surprise municipale, etc. Et le lendemain, c'est plutôt une photo d'actu de candidats élus à chaud. Et là, c'est exceptionnel, parce que comme il y a eu plein de villes qui avaient basculé à gauche, on a préféré prendre le dessin de Willem qui était fait déjà depuis la veille. L'avant-veille même, parce que c'était lundi. Donc,
le dessin était prévu pour l'intérieur?
Oui, il a envoyé ça, comme il fait d'habitude. Donc là, c'était publication lundi, comme il bosse pas le mercredi. Le dessin devait être là depuis 3 jours.
D'accord.
Et les photos d'actu. Alors, les photos d'actu, là, c'est la tête des maires nouvellement élus dans la ville qui passe à gauche. Et là, ça aurait été une composite un peu compliquée et ennuyeuse. Et le dessin s'imposait de lui-même. Et donc, le directeur de la rédaction l'avait déjà sur son bureau au début de la réunion de une, avec la manchette la plus rapide qu'on ait jamais trouvée, votre serviteur. Et c'est parti tout de suite, quoi. 3 minutes en tout, alors que d'habitude c'est plutôt 1 heure, 1 heure et demie pour trouver le titre avec le chef de service, le journaliste, le chef de séquence, le secrétaire de rédaction en chef, l'iconographe, le chef photo, moi, le directeur de la rédaction. Et il n'en sort pas grand-chose. Là, 3 minutes. Le dessin de Willem, il regarde, moi je dis bling, banco.
Et là, c'est l'exemple type d'une une qui était prévue en photo.
Oui, absolument.
Et qui est passée en dessin, voilà. Pour être plus percutante. Quoi.
Voilà, c'est ça. Alors, tout de suite, le choix de une photo ou dessin. Donc, évidemment, actu immédiatement photo. Surtout, le dessin pour tous les sujets un peu compliqués, impossibles. Le paysage audiovisuel français, les banques, comme on a vu tout à l'heure. Là, d'emblée, ça s'impose. Ou bien, avec le chef photo, on décide de faire une photo, entre guillemets, fabriquée spécialement, photo concept. Mais c'est toujours casse-gueule et toujours beaucoup, beaucoup moins percutant qu'un dessin, évidemment. Ça, c'est même pas une question. Donc, si chef photo, qu'on voit qu'il y a trop de soucis d'ambiguïté ou de problème de brief à la personne, c'est dessin tout de suite. Et là, dans le dessin, il y a toute la palette du dessin éditorial au trait, au dessin hyper réaliste, comme fait Bertrand, au dessinateur qu'on tient par la main, à qui on fait le ref, à celui en qui on donne juste le sujet, chuchoté au téléphone, pardon. Et qui rend évidemment 2-3 chefs-d'œuvre parmi lesquels on n'a plus qu'à choisir. Typiquement le cas de Willem. Ça, c'est encore difficile d'imaginer une photo là-dessus. Hein. Pour un sujet comme ça, c'est parfait. Alors, un autre numéro d'Angoulême. Là, c'était Skeleton. C'est pas toujours le président du festival qui fait la une, mais quand de temps en temps, Charles Burns, cette fois, ça faisait 10 ans que je rêvais de le faire travailler. En fait, on me l'a présenté. Il est très simple d'accès. François, lui, ça fait longtemps que j'adorais son boulot. Ils doivent mettre la une en abîme, en faire un objet. Lui a fait une affiche, Charles une télé, Pétillon a fait un journal dans le métro, Mandrika c'était une bulle avec le concombre masqué, Margerin c'est Lucien qui tient un journal, Book c'est une oreille d'éléphant, enfin bref, il y a toujours le logo dedans, mais on se débrouille pour caser la manchette comme on peut. Alors voilà, là il fallait absolument... Alors ça c'est un des 2 dessins, vous voyez, le matin. Donc... Laurent Geoffrin voulait absolument axer sur le côté, sur la laïcité, quoi. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Qu'est-ce qu'on va dire de... Et là, le dessin s'est imposé tout de suite. Donc, j'ai pris le dessin prévu pour la page débat, on a enlevé la bulle qui avait dedans, et hop, c'était absolument parfait. On a gardé Carla, évidemment, parce que c'était pas prévu pour, c'était un petit clin d'œil qui méritait pas d'être supprimé.
Et la bulle allait dans le même sens que le titre, ou c'était...
Ah oui, bien sûr, oui, je sais plus ce qu'il y avait dedans, mais l'avantage de Willem, c'est qu'il est tellement fort avec ou sans bulle que, parfois il y a un jeu, donc il s'impose, on peut pas l'enlever sans dénaturer et détruire le dessin. Et parfois, il est tellement balèze que, et il sait de toute façon que si jamais le dessin est pris en une, c'est absolument impossible d'avoir la bulle avec, quoi. Il y a sémantiquement, le message passe pas. Il y a la manchette, la titrée, je saurais même pas où la mettre. Il y a un double effet, c'est pas possible. Donc, on l'enlève et là, ça marche très très bien.
Est-ce que vous évaluez à l'eBay l'impact d'une une dessinée sur les ventes? Enfin, par rapport aux unes traditionnelles ou...
Alors, tous les X années, des artistes du marketing débarquent en disant ça vend pas. Oui, c'est vrai. Bertrand, encore une fois, là je lui ai demandé une boîte postale en forme d'urne et hop, terminé. Oui, le dessin ne fait pas vendre, n'a jamais fait vendre, c'est triste, mais c'est comme ça, depuis le New Yorker, depuis Courrier International, dont j'ai vu refaire la maquette justement, pas Courrier International, si Courrier International, du temps que c'était entièrement dessiné, c'était le seul endroit de France où il y avait des unes dessinées, et que des bons, hein, Götting, tout ça... Et c'était triste, et en plus j'étais au moment où j'étais dans le studio de création qui faisait ça, c'était ma copine qui l'a fait. Le dessin en une, c'est invendable, ça vend pas, sauf le New Yorker, mais le New Yorker c'est autre chose. Néanmoins, il faut mettre des dessins en une. Voilà, c'est tout. La plupart des sujets qu'on fait, nous, Libération, beaucoup politique intérieure française. Donc une fois qu'on a eu Sarko, face, profil d'eau, silhouettage, contre-plongée, plan américain, plan d'ensemble, le nez, la botte, la chaussure, les talonnettes, la main, la nuque, c'est compliqué de cibler un sujet extrêmement précis, parfois compliqué, si on appelle dessin. C'est absolument impossible, en fait.
Ouais. C'est déjà beaucoup, là, tout ce que tu viens d'énumérer.
Pour un seul le dessin en une ne vend pas ou vend mal, sauf quand le sujet lui-même est tellement porteur que c'est le sujet qui porte, mais on s'en fout, on continue évidemment, surtout pour la politique intérieure française et surtout pour un dessin, c'est un coup de poing dans la gueule qui donne un avis, donc on ne peut pas faire thèse, antithèse, synthèse comme un discours de Sciences Po ou un éditorial parfois ou un oral à Polytechnique. C'est la France, c'est le pays du baratin, le pays des encyclopédistes, le pays de la langue reine. Les anglo-saxons là-dessus ont beaucoup plus d'avance sur nous. Ils sont Gelstad théorie, ils sont le fond à la forme, ils sont plus forts en typo, en graphisme et en dessin, comme vient de le dire ma camarade. Mais ça veut rien dire, il faut continuer d'en faire. En plus, maintenant, c'est mondialisé, n'est-ce pas, la communication. Le dessin est absolument indispensable pour faire passer un message clair. Le problème maintenant, c'est qu'évidemment, les gens veulent se couvrir, ils ont peur. Donc ils veulent dire, on dit ça, mais on dit aussi son contraire. Ce à quoi je réponds, on peut pas faire entrer un rond dans un carré. Donc il faut se démerder pour que ça tourne autour du dessin, en rendant le message visuel global crédible et intelligible. Et une à une, c'est comme un logo, ça veut être visible sur la surface de l'ongle du pouce, visible sur un panneau d'autoroute à 250 à l'heure, et visible très vite, switché, quoi. Manchette, dessin, message, mission accomplie.
Très bien. Là, en plus, ça nous a permis de voir les différents métiers, quoi. Enfin, illustrateur et dessinateur politique.
Oui, alors des illustrateurs, il y en a plein, plein, plein. Ouais. Mais alors, vraiment, une foultitude. Et des dessinateurs politiques éditorialistes, il y en a malheureusement extrêmement peu. Quand je suis arrivé dans le métier il y a 15-20 ans, les deux plus jeunes s'appelaient Rémi Malingret et Lefred Touron. Là-dessus sont arrivés la nouvelle génération du nouveau Charlie en 92. Donc, Luz, Charb et toute la bande, là. Ce sont les derniers, des Mohicans. À partir de Sardon, je compte Sardon comme étant une aventure personnelle à Libération. Le nombre de merdes que je reçois sur mail ou dans le courrier de gens qui veulent commenter l'actualité en dessin est hallucinant. Harcelé par fax tous les jours pendant un an, par mail, des spams, des trucs. Je balance 50 mails à la poubelle avant même d'avoir tous les matins. Il y a plein qui veulent faire et très peu qui réussissent. C'est très étrange. C'est un métier à part, c'est un métier de journaliste d'abord, qui s'exprime par le trait, et d'autre part, mais il faut une culture générale encyclopédique, il faut une documentation pharaonique, il faut un mur entier de tronches de Bush, de Chirac, de Pompidou, Giscard, René Coty, etc. Il faut tout connaître, tout suivre, et en plus, il faut savoir dessiner et être drôle. On vient dans ce métier par hasard, comme je sais pas qui, hein. Sardon, il n'était pas destiné à ça, et Willem, il dessinait des bites dans Harakiri. Il y a 30 ans, donc il n'y a pas de loi. Mais oui. C'est vrai que ça manque cruellement et je ne vois pas de candidat. Les derniers que j'ai vus, mais j'ai vu Luz il y a 10, 15 ans, je ne sais plus quand, en 92. Là. Il avait ramené ses trucs, il y avait 20 ans. magnifique, je lui ai dit, c'est pour Charlie. Je lui ai dit, oui, mais il n'y a pas encore Charlie. C'était quelques mois avant la sortie du nouveau Charlie. Voilà, voilà, des Luz, 15 ans, voilà. Quoi. Et je ne vois rien, je vois Pas de candidat.
Faut pas désespérer. Il y a quand même Catherine Meurice qui a débarqué.
Oui, oula, j'ai oublié Catherine. Merci d'exister.
Absolument.
Merci Catherine, c'est la dernière.
Et elle est passée par l'école Estienne aussi. Donc,
et c'est une femme en plus. Non, merci Catherine.
Peut-être qu'il y a des filières, peut-être qu'il y a. Elle a une culture graphique, une culture générale.
Elle a tout.
Mais bon, c'est un cas.
C'est le cas, ouais. Le cas sur des centaines, des milliers, je sais pas qui, des dizaines. C'est un métier super dur, hein. Catherine. Oui, j'ai oublié Catherine. Pardon, Catherine.
Le problème, c'est que pour ce métier, dans la mesure où ils sont autodidactes, ça demande 10 ans, 15 ans d'apprentissage, 10 ans de travail avant de pouvoir s'épanouir.
Il n'y a rien de plus terrifiant, en fait, pour ça, parce qu'il faut un support.
En plus.
Et sur les centaines de gens qui voudraient faire ça, il y a un titre, deux titres, trois titres qui va essayer de prendre le risque de le lancer comme éditorialiste. Ça vient toujours par petits bouts. Hein. Un dessin par-ci, une pas trop mal par-là, la direction qui s'habitue. Et là, ça commence, quoi. Mais il faut la rencontre entre un dessinateur qui a vraiment envie, qui est balèze, d'une part, un support qui soit prêt à le recevoir, à l'accueillir, d'autre part, et des gens pas trop heureux là-dedans, derrière. C'est une combinaison chimique qui a une fois tous les.
Alors, on va peut-être passer à Bernard Fournier. Enfin, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Mais
terminé,
on va,
je vous remercie.
On va revenir après. Mais parce que moi, ce qui m'a frappé quand Bernard Fournier a fait son exposition sur Cabu. À l'Hôtel de Ville, c'est qu'elle a connu un gros, gros succès public. Ça ne désemplissait pas. Et il y avait du beau dessin, et toute génération confondue. Il y avait aussi bien des jeunes que des personnes qui connaissaient Cabu depuis les années 70. Et alors, peut-être qu'on peut se poser la question sur le support, c'est l'accès au support. Peut-être que les supports ne sont pas adaptés au dessin. Et c'est vrai que les expositions sont aussi peut-être, ou le livre, mais le livre, il peut en parler aussi.
Bah, je crois que les deux, hein, je veux dire, le livre comme les expositions, c'est très difficile à monter. Je veux dire que bon, là pour Cabu, la chance exceptionnelle, c'était que c'était à la mairie de Paris, rue Rivoli, dans un espace qui était très lisible. Mais le constat qu'on peut avoir, c'est que sur Paris et même en France, on a très peu de lieux consacré au dessin et au dessin de presse. Pour ce qui est de l'édition, c'est un peu le même problème, le même souci. Je veux dire que déjà, les livres, en général, se vendent mal. Mais alors, en plus, les livres de dessin ne se vendent pas du tout. Donc, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est qu'en fin de compte, le dessin de presse, les gens aiment bien le voir dans leur journal le matin au café, mais ensuite reformaté, remis en page dans un livre, d'un seul coup, il n'a plus la même saveur, il n'a plus le même goût. Donc c'est la question, pourquoi les livres des dessinateurs se vendent mal? Pourquoi on ne peut pas monter d'exposition de dessinateurs? Voilà. Je n'ai pas les réponses.
Mais quand on conçoit une exposition, on va vers le public, on essaie de présenter des dessins dans un format déjà inhabituel. C'est-à-dire souvent le format de l'original qui est beaucoup plus grand. Donc peut-être que le dessin prend déjà une autre dimension.
Bah mérite de valoriser le travail du dessinateur. Je veux dire que d'un seul coup, on n'a plus l'interface du papier imprimé. On a son travail à son échelle, avec ses ratures, avec ses fautes, avec ses tâches. Enfin, on a la matière brute. C'est un autre éclairage pour les gens qui passent dans l'exposition de voir le travail du dessinateur. Mais je reviens toujours à le vrai souci.
Je vais te permettre un truc. Ouais. Excuse-moi. Je crois que le rôle du dessin de presse, c'est d'être publié, diffusé et balancé à la poubelle. C'est exactement ce que je fais tous les jours.
Voilà, je crois que je suis.
Le côté sacralisé du truc, etc. Oui, bien sûr, pour un dessin qu'on a adoré, pour un dessin emblématique, pour un dessin qui nous touche, quoi. Mais la peinture, oui, c'est un autre circuit, un tableau. Mais un dessin, c'est comme un journal, tu fous à la poubelle. Est-ce que ça fait rire ou pas? Est-ce que tu t'en souviens? Si ça devient mémorable, si ça devient un dessin historique, comme ça peut l'être parfois, soit par hasard, soit parce que le vent de l'histoire l'a posé comme ça, ou frontant des choses. Willem, il me dit, Alain, il y a une exposition Chaval, mais Chaval, il vend 20 000 francs, mais Chaval, pour être vendu, il faut être mort. Et il a raison. Et là-dessus, je pense à des gens comme on a pu croiser, comme Roland Topor et Willem, je remercie Je sais pas qui a eu l'idée à Beaubourg de faire une expo. Il faut se rendre compte que ce gars-là est un géant du graphisme du XXe siècle et qu'il n'est pas immortel comme les autres, hein, comme Roland Topor, ouais, comme Sistevitch.
Ouais. Mais dans les livres que je fais, genre, le propos, c'est pas de publier intégralement d'une façon mécanique les dessins jour par jour. Je veux dire que c'est justement de faire une sélection sur des dessins qui sont intemporels. Je veux dire que c'est la qualité graphique. C'est la qualité de l'idée qui reste. Donc ça demande, tout le moins c'est ce que j'imaginais que ça pouvait mériter d'exister en plus du journal dans un livre. Le constat que je fais, c'est que c'est peut-être pas sa place.
Je suis d'autant plus d'accord avec toi que je parlais du vente d'originaux en fait. Je parlais pas.
Oui.
Je parlais pas des livres, qui est évidemment indispensable de d'accumuler un peu de mémoire dans les bouquins, sinon qui le ferait? Surtout le dessin de presse qui est justement maltraité par définition. Donc merci de faire ce boulot. Moi je connais le dessin de presse que par les livres. On n'est pas abonné à tous les gens.
Donc il faut trouver de généreux sponsors pour continuer à financer des livres sur le dessin de presse, parce que sinon ça n'existera plus. Je veux dire que qu'est-ce qu'on a comme production en ce moment?
Non, il n'y a rien. Mais est-ce que justement ça ne peut pas nous permettre après de réfléchir à comment le dessin de presse doit s'adapter ou doit peut-être même évoluer dans son contenu? Parce que par exemple, si on prend la BD, si on prend l'illustration, on l'a vu là avec des unes de Libé, les illustrateurs s'adaptent aux nouveaux outils, s'adaptent à un nouveau mode d'expression qui renouvelle un peu le graphisme. Peut-être que le dessin de presse, là j'ai vu tout à l'heure les dessins à l'étranger, ils reprennent pratiquement les mêmes codes que les dessinateurs français, sauf certains qui sont un peu plus graphistes. Le dessin avec l'ombre portée derrière, c'est plus une recherche de graphisme. Et c'est vrai qu'il y a des moyens d'expression qui ont su évoluer. L'illustration, la vidéo, le dessin de presse a toujours gardé ces codes qui sont peut-être maintenant devenus incompréhensibles pour des générations qui lisent autrement, qui regardent l'image autrement, qui consomment l'image autrement. Enfin, c'est peut-être une question à se poser. On peut la poser à...
Enfin, moi, je pense qu'il y a une question effectivement d'habitude, mais c'est plus on voit de dessins de presse, c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, plus on voit de dessins de presse, plus on les comprend et plus on les aime. J'en ai une histoire récente à vous raconter, c'est le Nouvel Observateur m'appelle en disant on publie un dessin de notre correspondante en Italie sur la fascisation du régime. Et donc la correspondante écrit que les dessinateurs italiens représentent tous Berlusconi en mini Duce, etc. Enfin, ils prennent beaucoup de plaisir à ça, qu'on voit beaucoup de dessins sur le sujet. Et donc on me demande un dessin italien qui serait paru récemment. J'envoie plusieurs dessins où effectivement il y en a un avec Berlusconi où il est question de fascisme, d'autres où il est question de fascisme. Il n'y a jamais un dessin, le dessin idéal que manifestement le directeur artistique voulait, qui était Berlusconi en Duce, qu'on trouve d'ailleurs chez d'autres dessinateurs. Le Harfel que je vous ai montré, il en avait fait un qu'on a publié dans Courrier, mais bon, ça c'est un regard étranger. Les dessinateurs en Italie, pour comprendre et apprécier ces dessins-là, il fallait les voir quotidiennement, il fallait être dans cet univers graphique, il fallait en avoir une espèce d'habitude. Il y a l'un des dessinateurs dont le nom m'échappe, qui est le dessinateur du Corriere della Sera, représente toujours Berlusconi d'abord. Si on le voit pas tous les jours, on ne sait pas que c'est Berlusconi. Il y a besoin à un moment qu'on vous dise oui, c'est bien Berlusconi. Et il le représente avec une banane, parce que il dit que c'est une république bananière, donc Berlusconi est toujours affublé d'une banane. Pareil, enfin, c'est du code visuel, de l'habitude, que si on l'ignore, même d'un pays à l'autre, on est totalement désorienté par rapport à ça.
C'était déjà le cas de Jacques Faisan, par exemple, au Figaro, qui avait ses propres codes. Enfin, mais justement, moi, c'est la question, enfin, on va peut-être en parler avec l'école Estienne. C'est justement, moi, ce qui me trouble, c'est que le public du dessin de presse ne se renouvelle pas trop, enfin, on a du mal à trouver des... Il y a des jeunes, enfin, par exemple, qui achètent les nouveaux journaux qui paraissent hebdomadairement, ou même Charlie Hebdo, mais il n'y a pas un renouvellement massif de la clientèle intéressée par le dessin de presse. Et je voulais savoir si à Estienne, il y a des élèves qui sont... qui s'intéresse à ça.
Oui, bien sûr. Alors, bon, je vais vous tenir un discours très optimiste. Bon, déjà, j'aimerais tout d'abord réenfoncer le clou de l'idée, puisque, bon, l'école Estienne, je pense que vous la connaissez de réputation, tout le monde sait dessiner. Alors, pourquoi créer un trophée de dessin de presse alors qu'il y a des fanzines absolument partout? Ben justement, c'est pour lutter contre cette suprématie du trait, on va dire. Alors, ce qui va peut-être vous étonner, c'est que, bon, je vous parle du Presse Citron, qui est mon bébé, on va dire. Ce trophée du dessin de presse a été créé il y a 16 ans par 4 profs de lettres. Bon, alors c'était déjà l'état dans l'état, donc il s'agissait vraiment de privilégier le dessin intelligent. Et puis le dessin intelligent qui fait rigoler, bien sûr, puisque ça, il n'y a pas plus fédérateur, mais ça a déjà été dit et redit. Alors, donc, les objectifs de cette affaire, c'était essentiellement, bien sûr, la production, hein, la lecture de la presse, la production de dessins de presse, et aussi et surtout la rencontre, puisque au début, la rencontre entre les étudiants et les dessinateurs professionnels, puisqu'il s'agit d'un double concours, à savoir les dessinateurs professionnels viennent à l'école, ils adorent ça d'ailleurs, revenir sur les bancs de l'école, tout le monde adore ça, donc ils votent pour les dessins réalisés par les élèves, pas seulement ceux de notre école, mais ceux des écoles d'art de la France entière, puisque maintenant le bébé a grandi. Et parallèlement à cela, les étudiants votent pour le meilleur dessin d'actu publié. Hein, il faut qu'il ait été publié dans l'année. Alors, très rapidement, les dessinateurs qui sont venus, alors tous les grands noms, Plantu, Willem, bon, je ne fais pas de liste exhaustive, ça serait vexant, ont été enthousiasmés, justement, de rencontrer des jeunes gens, de parler avec eux. Ils nous disaient à l'époque, il y a une très grande solitude dans le dessinateur de presse. Il est là, chez lui, tout seul, il cherche son idée, et puis il faut qu'à midi, il est envoyé. À l'époque, c'était par fax. Bon, maintenant, ça a un petit peu évolué quand même. Donc, en fait, il voit jamais personne, et en plus, il se rencontre pas tellement entre eux. Donc là, c'était une espèce de forum. Donc ça a tout de suite vachement bien marché. Et quant aux étudiants, ben, de toute façon, il suffit qu'on leur propose quelque chose pour qu'ils soient partants et puis je vous apprendrai rien en disant qu'ils sont tous pleins d'idées. Alors ça, c'était ce qui préludait à cette création. Et vous allez me dire, pourquoi un concours? Ben oui, ça fait pas très dessin de presse, l'idée de concours. Bon, vous comprendrez bien que le concours, en fait, est un prétexte. Alors, il y a des gens, par exemple, qui ne l'ont toujours pas pardonné. Je parle du Canard Enchaîné. Les dessinateurs du Canard Enchaîné sont interdits de participation par la rédaction. Alors, on arrive quand même à les choper, parce que quand il s'agit de venir discrètement quand même participer au vote, c'est-à-dire voir les copains, boire un coup, rencontrer toutes ces jolies filles et puis voir tous ces beaux dessins, là ils viennent, mais ils viennent presque incognito. Et donc cet aspect concours nous a un peu plombé, on peut dire, mais l'avers de la médaille, c'est quand même que ça nous a permis de faire connaître des jeunes et des jeunes formidables. Nos premiers gagnants, par exemple Fred Benaglia, David Poula, bon, pour ne citer qu'eux, sont tous devenus directeurs artistiques maintenant. Et je ne reparlerai pas, prétérition, excusez-moi, je ne reparlerai pas de Catherine, mais Catherine qui était élève à l'école Estienne et qui a été lancée, si je puis dire, par le Presse Citron. Évidemment, son talent a fait le reste et sa culture aussi, puisque Catherine est avant tout une littéraire. Elle avait fait auparavant des études de lettres et d'ailleurs, elle vient de publier, petit copinage au passage, si elle en avait besoin, un livre formidable qui s'appelle « Mes hommes de lettres ». Voilà, alors pour essayer d'être rapide, un petit mot sur comment on initie au dessin de presse, comment on initie les jeunes gens et comment on entretient cette fièvre, car il s'agit vraiment de fièvre créatrice. Et bien d'ailleurs, on leur fait lire la presse. Alors, vous savez bien que les jeunes n'achètent pas la presse, mais ils la lisent. Et là, nous bénéficions, et ça, j'en profite parce qu'il y a des représentants de la presse parmi nous, nous recevons, beaucoup d'écoles d'ailleurs sont dans ce cas, gratuitement, chaque jour, une centaine de journaux. Alors, on a Libé, on a Le Figaro, bien sûr. Bon, mais c'est pas toujours mauvais, même du point de vue du dessin de presse. On a, qu'est-ce qu'on a encore? Le Figaro, Libé, on a La Croix souvent, on a, bon, enfin bref, on reçoit des journaux, l'équipe non jamais, et les étudiants les lisent, donc ce qui est une première chose. Alors ensuite, on leur donne des cours. Quand je dis on, c'est d'une part les profs, bien sûr, parce qu'ils savent aussi un petit peu faire. Alors on fait des brainstorming, on choisit un sujet, il y a cette fièvre créatrice qui se met en place, mais c'est surtout, on fait surtout appel aux intervenants extérieurs, c'est-à-dire aux dessinateurs professionnels qui viennent volontiers, qui animent des ateliers, et ça, c'est formidable, ça prend tout de suite une autre envergure. Et on organise également des expositions. Bon, lorsque Charlie Hebdo avait 13 dessinateurs avant l'événement que vous savez, ça tombait bien, c'était le 13e épisode du Presse Citron, donc on a organisé une expo 13 et puis en même temps les 13 dessinateurs. On a eu Vial, on a eu on change chaque année, et cette année nous aurons des closos. Donc vous voyez, le spectre est assez éclectique. Voilà en gros notre démarche pédagogique, si je puis dire. Et je voudrais, pour terminer, dire un petit mot sur l'avenir, hein, puisque c'est pour cela que nous sommes tous là. Me semble-t-il, un certain virage se produit dans la production elle-même, dans le fond, dans le style. Je ne sais pas s'il est possible de faire passer à l'écran les deux dessins étudiants gagnants de l'année dernière, par exemple, parce que ce sont des jeux, disons que cela n'a rien à voir avec la caricature. Alors, je crois que les étudiants, comme vous tous, comme nous tous adultes, en ont eu un peu marre de l'omniprésence de Sarkozy. C'est vrai qu'il est très facile à faire. Chaque étudiant en graphisme un peu doué, il fait un carré, deux, trois zigouigouis à côté, et il tient son Sarkozy. Hein. Bon, mais ça, il y en avait marre. Donc, l'ensemble de la production, c'est-à-dire les 400 dessins, c'est déjà une présélection qui ont été mis au concours, présenter des choses beaucoup plus poétiques, beaucoup moins axées sur l'actualité, et du dessin plus proche finalement du rêve. Madame soulignait tout à l'heure, madame qui est dessinatrice je crois, regrettait que le mot rêve ne soit pas ajouté aux 3 R du dessin de presse. Donc j'irai dans votre sens, et je crois que actuellement, au niveau de la jeunesse en tout cas, on va beaucoup vers le rêve.
Si je peux rajouter, c'est vrai que c'est une tendance que j'ai remarquée sur les blogs, parce que maintenant beaucoup de dessinateurs ont des blogs, et moi je navigue pas mal pour essayer de voir les évolutions graphiques, les nouvelles signatures, et notamment chez les femmes, il y a beaucoup de femmes qui dessinent et qui effectivement ne vont pas directement sur un dessin politique, font du dessin de société. Soit elles parlent d'elles, soit elles parlent de leurs problèmes. Et c'est vrai qu'il y a une forte tendance et c'est des dessins qui sont à mi-chemin entre la bande dessinée et le dessin politique. Et il y a une nouvelle sensibilité et même des dessinateurs qui font de la BD, comme Jean-Yves Ferry, par exemple, ou Diego Aranega, traitent des sujets qui sont à la lisière de l'actualité, des sujets de société, mais avec un regard différent, avec moins de virulence, moins de cynisme que ne font les dessinateurs de presse, entre guillemets, les caricaturistes. Quoi.
Est-ce que le dessin de presse, il doit être forcément politique ? Dessin de société, ça peut être un dessin de presse aussi.
On en revient toujours à la définition du métier, quoi. Non, ouais. C'est vrai que donc,
si je puis me permettre, même s'il est effectivement très difficile d'être dessinateur professionnel, bon, tant que le dessin de presse reste un plaisir et qu'il peut circuler sur les blogs, qu'il peut circuler dans l'affichage sauvage, enfin dans les tracts, c'est vrai que ça, on retrouve un peu la vocation du dessin de presse du 19e siècle, donc il est vivant, hein, c'est déjà ça. Tant pis pour les nouilles, c'est pas mauvais non plus.
Non, mais c'est bien les nouilles. Mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution de ce métier, de voir les jeunes, déjà, le regard qu'ils portent sur le dessin de presse existant, C'est-à-dire, est-ce qu'ils apprécient, est-ce qu'ils arrivent à lire, par exemple, des dessins de Cabu ou de Willem? Est-ce qu'ils ont, enfin, et pourquoi il n'y a pas plus de dessinateurs qui prennent cette pente, enfin, ce chemin-là, quoi?
C'est, je crois qu'il y a la BD qui a beaucoup entraîné,
la BD, ouais.
Qui a vampirisé un Absolument. Peu le talent d'expression des dessinateurs, je veux dire. Parce que d'un seul coup, c'est plus facile, je veux dire, que c'est uniquement bonifier un talent de dessin, c'est pas uniquement de rajouter en plus du sens. Donc et puis bon, depuis 20 ans, c'est effectivement le statut de dessinateur de BD a enflé et attire beaucoup de jeunes talents. Mais d'un seul coup, on réalise aussi que, et on le voit quand Alain, tu fais ton numéro sur Angoulême, sur les 30 dessins qui sont publiés par des dessinateurs de BD, souvent c'est une belle illustration, mais il n'y a pas d'idée. Voilà,
parfois certains spiogeux trouvent des très bonnes idées, ils pourraient verser.
Voilà, oui. Et y a,
facilement.
Il y a très peu d'exemples de dessinateurs de BD qui sont passés au dessin de
Non, c'est un autre exercice.
Ouais. C'est un autre exercice. C'est une autre discipline, une autre contrainte. Ouais. Un autre regard.
Mais quand je vais dans les diplômes de fin d'études de toutes les écoles d'art graphique de Paris, en fait, il y a très peu qui s'intéressent, mais c'est même pas du dessin ou l'illustration, c'est au print. Il y a trois quarts qui font du multimédia, et franchement, le papier pour eux, c'est du vieux. Et je me suis retrouvé aussi dans les jurys de dessin de jeunes d'étudiants, deuxième ou troisième année d'école. Et il y avait cette sorte de paradoxe que certains avaient envie de faire des dessins politiques, mais ils lisaient pas un seul journal. Sur les 30 que j'avais en face de moi, il y avait un qui avait lu L'Équipe le matin, je crois. Et les 29 autres n'avaient jamais rien lu, ni ouvert depuis une semaine ou deux. En presse quotidienne, évidemment, je parle. Donc, je crois que tout le monde est à fond sur le multimédia. Des derniers dinosaures du print.
Et c'est vrai que tout à l'heure, Guillaume Dozy parlait des guignols de Canal+. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de tort, enfin, et aux dessins de presse, enfin, aux dessins de presse d'opinion, on va dire. C'est-à-dire aux gens qui s'expriment et qui ont des idées et qui veulent les transmettre.
Je pense qu'une chose révélatrice, c'est que les trois quotidiens gratuits qu'on trouve à Paris, aucun d'eux n'a de dessin éditorial. Bon, il y a un dessin quotidiennement dans Matin Plus qui est fourni par Courrier International, mais qui est un dessin d'illustration qui accompagne l'article, qui mange pas de pain, quoi. C'est souvent joli, c'est parfois drôle, c'est parfois légèrement grinçant, mais on n'est pas dans le dessin éditorial, parce que ça poserait des problèmes.
C'est la bonne remarque, parce qu'effectivement, les gratuits, il n'y a pas de prise de position, je veux dire. Et le seul dessin qu'il y a, c'est une petite BD, je veux dire. C'est, oui. Voilà.
Pas une petite BD.
Hein ?
Un strip.
Un strip, ouais.
De toute façon, on ne peut pas faire un constat totalement négatif quand même. Enfin, sinon, on va boucler la journée.
Non, mais je pense que par rapport à ce que disait l'Américain là, de la syndication, c'est sans doute vrai aussi en France. On peut espérer qu'il y ait des tas d'espaces, mais des petits espaces. Alors ça veut dire pour les dessinateurs une visibilité moindre, éventuellement une notoriété moindre aussi, puisque bon, il y a quand même, disons, quelques stars en France qui, on voit bien dans les salons ou dans... ou dans les assemblées générales de journaux, il y a une espèce de masse qui vient se mettre autour du dessinateur, parce que c'est à lui qu'on veut parler, parce que c'est lui qui semble le plus accessible, le plus sympathique, c'est lui qu'on va tutoyer, c'est ce que disait Charles tout à l'heure. Donc, il faut sans doute trouver des espaces. Enfin, je pense que dans la presse spécialisée, la presse tout ça, il y a du dessin qui est pas... Bon, toujours pareil, c'est pas du dessin politique, ça peut être du dessin qui dit quelque chose.
Hein. Oui, satirique, déjà satirique, oui. Ça serait bien. Quoi.
Bon, on le sait moins parce que c'est moins visible aussi.
Mais moi, j'ai toujours constaté, même à travers ce que je voulais dire tout à l'heure avec l'exposition de Cabu et Paris, c'est qu'il y a il y a vraiment un décalage entre l'attente du public qui va vers les dessins. De toute façon, même un journal comme Charlie Hebdo peut arriver à vendre 500 000 exemplaires d'un journal. Je ne dis pas qu'ils font ça chaque semaine, mais il y a quand même un public qui aime ça. Et il y a d'autres journaux où il y a très très peu de dessins pour dire pas du tout. Quoi. Enfin, et vraiment, il y a un grand écart entre l'attente des lecteurs et la volonté des journaux qui n'ouvrent pas leurs colonnes, qui ne font pas venir des dessinateurs. Parce que même s'il ne, enfin, il pourrait former, par exemple, les dessinateurs du monde qui étaient Chénez et Plantu, quand ils ont démarré, ils étaient très mauvais comme dessinateurs. Mais le monde avait une politique de recrutement, de former des dessinateurs, et ils ont attendu 5, 10 ans avant de... Et il y a très peu de journaux qui font ça maintenant, enfin c'est...
Voilà. Enfin, ne nous accrochons pas à ces vieilles idées comme la Yule à sa branche.
Non.
C'est fini, ça. Dans les journaux, on ne forme plus non plus les jeunes journalistes, alors qu'avant, on les formait. Maintenant, ils sont formés essentiellement dans les écoles.
Ne nous lançons pas sur le sujet des journalistes, à ce cas-là.
Oui, mais au-delà de la formation, il faut quand même être très courageux pour être dessinateur de presse, parce qu'il faut être en état de veille permanente. Et ça, pour un artiste, je pense qu'à un moment donné, surtout qu'en plus, l'artiste, il est un peu narcissique, donc il a envie d'être reconnu pour ce qu'il est, etc. Donc là, c'est vraiment le lancer sur un terrain mouvant. Il gagnera beaucoup plus de fric et il sera beaucoup plus confortable intellectuellement comme directeur artistique. Il fera de la com, il vendra de la soupe, mais vraiment, cette veille et cette colère permanente qui lui est nécessaire s'il veut faire du dessin de presse, c'est vraiment très dur. Moi, je suis extrêmement admirative pour ceux qui l'ont et qui continuent à le vivre.
Oui, il y en a encore quelques-uns quand même. Enfin, je pense que c'est comme tout métier artistique. C'est quelqu'un qui veut être comédien, qui veut arriver en haut de l'affiche. C'est une appréciation personnelle.
Oui, mais quand même, en plus, ça va encore plus loin parce que c'est un comédien qui fait du direct tous les jours. Et comment dormir? Moi, il se trouve que j'en connais quelques-uns personnellement, mais ça les empêche de dormir. Bon, en même temps, c'est ce dont on rêve tous, toute sa vie, un éveil.
Ça fait partie du métier. C'est un métier de création. Donc la création, on ne sait pas où on va la chercher. L'imagination, ça fait partie du métier. C'est pas plus dur que d'aller travailler à une usine 8 heures par jour et de gagner le SMIC.
C'est quand même vachement plus angoissant parce qu'il faut fournir. Là, il y a quand même le coup près tous les jours à telle heure. Bon, c'est vrai qu'après, il y a une certaine habitude. Mais enfin, quand même, c'est pas une vie facile.
Mais il n'est pas obligé non plus de le faire. Donc, mais c'est pour tous les créateurs. Si vous discutez avec ceux qui écrivent les textes des Guignols, eux aussi vous diront, on n'arrive pas, on n'a plus d'idées, on l'a déjà fait. Et c'est vrai aussi que ils ne sont pas aidés par la vie politique. Parce que le dessin politique, c'est le reflet de la vie politique. Et comme ça ne se renouvelle pas beaucoup, qu'il n'y a pas beaucoup d'idées, mais en même temps, ça fait partie du métier de créateur, quoi. C'est quand même un métier de créateur.
Ça, c'est juste pour vous montrer un exemple de ce que j'appelle le dessin compassionnel. Moi je le trouve très beau. C'était au moment des émeutes, enfin des manifestations en Birmanie. C'est un dessinateur italien qui s'appelle Marco De Angelis, et c'est marrant parce que d'ailleurs quand il se passe, enfin c'est là où on voit la différence entre des dessinateurs. Je trouve quand il se passe un événement genre 11 septembre ou genre ça, il y a d'abord une espèce d'effet de sidération pendant un jour, deux jours, trois jours. On voit ce genre de dessin qui prend une vraie distance par rapport à l'humour. C'est comme s'il y avait une espèce de temps à respecter avant de pouvoir essayer de faire rire, autant qu'on puisse faire rire avec ce genre de sujet. Mais il y en a qui y arrivent toujours.
C'est pratiquement du dessin symbole. Non ouais.
Bon, c'est beau.
C'est efficace, on va dire. Mais de toute façon, même dans l'histoire, enfin, on remarquera que le dessin a toujours existé dans des périodes de révolte, ou des périodes où il y avait vraiment des choses à dire. Guillaume Doisé a cité les guerres de religion. C'est vrai qu'il y avait une bagarre entre les différentes parties. Après, il y a eu la Révolution française. Après, il y a eu la Commune. Chaque fois, ça, même sous Louis XIV, il y avait des caricatures. Chaque fois, il y a eu une... Quand il y avait des idées à exprimer ou une révolte à exprimer, même en mai 68, il y a eu des dessins. Ça a produit L'Enragé, par exemple, qui a été un creuset où on retrouve Cabu, Pétillon, enfin tous ceux qu'on retrouve maintenant d'ailleurs. Loup, enfin. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on a plus. ce souffle de révolte, ni dans l'actualité, ni chez les dessinateurs, ni... Cabu, il a eu 13 procès contre l'armée parce qu'il était vraiment antimilitariste. Mais maintenant, enfin...
Mais parce que peut-être que le débat aussi dans la société...
Oui, c'est ce qu'on disait pas, tout à l'heure aussi. Il n'y a plus de
débat. Dans
y a...
la société n'existe pas. Les journaux se sont concentrés, il y en a de moins en moins. Pourquoi, d'un seul coup, spontanément, une nouvelle génération de dessinateurs apparaîtrait ? Je veux dire que il faut qu'il y ait un appel
non,
d'air.
C'est juste façon de réfléchir à ce qui va se passer. Ce que je disais tout à l'heure, il faut 10-15 ans pour faire un dessinateur. Si on part de maintenant, dans 15 ans, pour l'instant, à moins qu'il y ait des générations spontanées, mais pour l'instant, ça ne se profile pas, quoi. Ça aussi, c'est comme quand on est comédien, il faut un peu crever la faim. Quand on discute avec l'équipe de Charlie Hebdo du début, ils avaient tous envie de se battre, quoi. Ils avaient tous envie d'exister, ils avaient tous envie de...
Je peux me permettre une incise. Il y a le politiquement correct qui est passé par là, parce que t'imagines, balle à Colombet, un mort, maintenant, le problème pour les dessinateurs est le même que pour tous les humoristes et tout ça. Coluche, maintenant, sur scène, je sais pas... Reiser dans les pages.
Ouais, mais
t'imagines ? Mais c'est procès immédiat, il sera en tôle maintenant. Direct.
Oui, mais Charlie Hebdo est un journal créé par des créateurs, quoi. Enfin, par dessinateurs, par des auteurs qui avaient envie de dire quelque chose. L'Enragé, ça a été pareil. Enfin, c'est des gens qui ont envie de s'exprimer. Alors peut-être que l'avenir du dessin de presse, il est dans la multiplication des titres créés par les auteurs, les dessinateurs. Mais quand on voit la difficulté de créer un journal aujourd'hui, c'est vraiment... C'est lourd, quoi. Et comme Internet, comme disait Odile tout à l'heure, Internet ne rapporte rien aux dessinateurs, quoi. C'est pour l'instant, on ne gagne pas sa vie en publiant ses dessins sur Internet, quoi.
Mais par contre, on peut être connu, ça c'est bien. Il y a un jeune dessinateur qui vient me voir, je ne sais pas pourquoi, je lui dis, ben, essaye Politis, peut-être. Il essaye Politis, et Politis, au début, le prend sur son site, pas payé, évidemment. Puis au fil des semaines, il est passé versé du... Internet au papier. Ça, c'est un truc. Et l'autre truc, c'est l'histoire de Thierry Guitard. On bossait super souvent ensemble il y a 10-15 ans, il faut qu'il y ait multimédia, tout ça. Là, maintenant, il fait toujours ses bouquins sur le rock et sur. Et Thierry, il me dit, mais Alain, j'ai été contacté par le New Yorker parce que la Chris Curry, là-bas, a été sur Internet, quoi. Je lui dis, mais pas d'autres réseaux, pas... Non, non. Elle a juste double-cliqué et hop, elle a trouvé. Donc Internet, pour ça, c'est fantastique.
Hein. Internet n'est qu'un outil pour se faire connaître. Par exemple, les dessinateurs, pour démarcher les journaux, avant, ils avaient des books. Ils rassemblaient une trentaine de leurs dessins pour montrer ce qu'ils savaient faire. Ils allaient démarcher les directeurs artistiques. Maintenant, c'est vrai, ils ont Internet. Mais Internet, c'est pas parce qu'on est sur Internet que tout le monde nous voit non plus. Ça faut pas. Enfin, c'est un peu.
Non, ça aide, c'est tout. Évidemment.
Ça aide, mais il faut se faire connaître. La démarche de rencontrer des gens, d'aller vers eux, d'aller vers des directeurs artistiques, d'aller vers des journaux ou des agences, il faut quand même la faire, même si on est sur Internet. Internet, c'est pas une. Enfin, pour l'instant, c'est pas une solution. Moi, je crois plus à la télé, mais le problème, c'est qu'il faut que ça s'ouvre. Il faut que la liberté d'expression soit plus large pour le dessin. Parce que le dessin à la télé, ça a toujours plu. À Droit de réponse, ils avaient une revue de presse au début qui marchait très très bien. Bon, elle s'est arrêtée jusqu'au jour où il y a eu un dessin contre TF1. Mais la télé est un bon support qui permet en plus de rémunérer les auteurs. Alors peut-être qu'il faudra monter des émissions de télé avec du dessin, quoi, sur des chaînes câblées. On peut faire des choses... Un peu comme les séries américaines.
Ouais, ben voilà, c'est ça. Au New Yorker, il y a 3 avocats derrière. Pour être sûr que le restaurant est bien représenté, qu'il y ait bien le nombre de fenêtres et tout ça. Enfin, je dis ça sans contrôle de Chris Curry.
Non, mais ça rejoint ce qu'on disait. Enfin, là, de toute façon, le nouvel hebdomadaire qui est sorti, eux, ils n'avaient qu'une limite, Siné l'a dit, c'est que c'est l'avocat. C'est-à-dire que dès qu'un dessin peut être susceptible de tomber sous le coup de la loi, il ne le publiait pas. Donc, voilà. Alors, s'il y a un journal satirique qui dit ça, je ne vois pas où est l'avenir du dessin de presse, quoi. Enfin, en dehors de... Bon. Est-ce que vous avez des... On va passer la parole à la salle, à moins que vous ayez encore quelque chose à... Là. Monsieur Rousseau qui intervient à nouveau.
J'ai remarqué une chose, c'est que toutes les entreprises... à partir d'un bon dessin vaut mieux que long discours. Ça a été suivi ensuite par Gronet Magazine. Il y a eu une minute de silence. Il y a eu autre chose fait par Dobritz. Et alors, toutes ces entreprises pour promouvoir le dessin de presse avaient un dénominateur commun qui était la fourniture gratuite de dessins de presse. Je crois que le dessin de presse, c'est la seule chose qu'on puisse demander gratuitement sans avoir honte à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai qu'on fournit, un dessinateur est appelé à fournir des dessins dans son existence, un nombre incalculable de gratuité.
Non, non, mais enfin, toutes les associations là, ne livraient pas du dessin. Pour reprendre un bon dessin, c'était des expositions. C'était le Festival de la caricature d'Épinal, qui était une vitrine tous les ans pour les dessinateurs.
Oui, je m'en souviens de ça.
100
oui,
mais... dessinateurs qui venaient à Épinal.
Oui.
Et c'était une vraie vitrine pour le métier et les dessinateurs.
Oui, oui, oui.
C'était pas gratuit.
Oui,
Les dessins étaient déjà publiés dans les journaux.
Ah, et alors il devenait gratuit de ce fait. Ça, je sais, c'est l'argument classique.
Non, il ne les donnait pas gratuits, puisque personne ne les achetait.
Oui, oui,
donc,
d'accord.
C'était pas une vente, c'était une exposition.
Oui, mais enfin, pour les autres, ce qui a suivi, il y a eu beaucoup de choses. Et il y a aussi sur Internet les gueules d'humour et compagnie, quoi.
Mais ça dépend des
dessinateurs. C'est toujours gratuit.
Moi, je vais prendre deux exemples. Il y a un dessinateur qui accepte de faire des couvertures de livres, qui accepte de casser les prix. Il va travailler. Mais à ce moment-là, il va faire baisser le prix pour tout le monde. Il y a d'autres dessinateurs qui refusent de baisser les prix, qui disent, voilà, mon travail est estimé, je l'estime à tant. Je ne travaillerai qu'avec les gens qui me le paieront à cela. Et à ce moment-là, il y a des personnes qui vivent très bien parce qu'ils ont refusé de baisser les prix. C'est comme un petit artisan. Hein, si on est plombier et qu'on casse les prix, après on va se retrouver avec le marché et l'économie qui va faire que...
Oui, notre petit détail, puis après je passe le micro. Sur les récents événements qui se sont produits... au niveau du licenciement du dessinateur ciné.
Ouais.
Je ne pense pas qu'il soit du tout antisémite. Ouais. Là, il y a une erreur de jugement. Simplement, je crois qu'il s'est trompé d'époque. Hein. Parce que s'il avait fait la même chose en 1940, ben, tout le monde aurait été content. Il n'y aurait eu aucun problème.
C'est pas sûr. Bon, pour aborder le sujet, on a décidé de... Ça me trouble. On a décidé de ne pas en parler, parce que déjà, c'est une affaire entre deux... Enfin, c'est des textes, c'est sur du texte. C'est une affaire entre deux personnes, entre Val et Ciné. Et on a pensé que ce n'était pas utile d'en parler, dans la mesure où ça n'intéressait pas le dessin de presse, et encore moins son avenir. Donc, c'est un conflit entre deux personnes. Chacun porte le jugement qu'il veut là-dessus. Hein. C'est pas... Je veux dire, il y a les pro-cinés, mais en même temps, ça n'a pas fait avancer le schmilblick pendant tout l'été. Quoi. C'est-à-dire que pour le dessin de presse, il n'y a rien gagné du tout. Bien au contraire, je pense qu'il il recule, comme avec les histoires des caricatures de...
Excuse-moi, le dessin de presse a quand même gagné un hebdo en plus.
Oui, il a gagné un hebdo, tant mieux. Mais on va attendre. On va attendre un peu avant de se prononcer. Mais ça et les caricatures de Mahomet non plus n'ont pas fait avancer le schmilblick sur le dessin de presse parce que on crée des polémiques sur des choses qui ne sont pas sur le dessin de presse, qui sont pour les caricatures de Mahomet sur une manipulation qui a eu lieu à partir de dessins et de photos et de dossiers qui ont été montés pour X raisons. Mais ça c'est autre chose. Ça fait partie du dessin de presse. C'est vrai qu'il n'y a pas de dessin de presse dans les pays où il n'y a pas de démocratie, donc où il n'y a pas de caricature. Donc,
Oui.
Si, il y a du dessin de presse, mais par exemple, à Cuba, on critique Bush, mais c'est facile.
Voilà.
Ou alors, on fait le dessin que je vous avais mis tout à l'heure, là. Enfin, je suis moqueuse, mais à Cuba, il y a des très bons dessinateurs, je trouve. Le dessinateur Arès avait fait comme une page de BD. Les deux cases du haut, c'était un monsieur qui dit « Ah, alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de la liberté d'expression, et toutes les cases sont blanches. » Donc, j'ai l'impression, ça c'est mon interprétation, que le dessinateur à Cuba qui fait ça, il se dit je sais que je peux pas le dire, mais je dis que je peux pas le dire, donc je suis quand même vachement libre. Enfin, il y a une espèce de jeu qui doit se faire comme ça. Enfin, je trouvais ce dessin assez sympathique.
Il flirte avec la censure. C'est vrai que c'est pareil pour Dilem, dessinateur algérien, qui souvent utilise des tas de comment dire. Oui, pour parler de quelqu'un dont il n'a pas le droit de parler. Résultat, il a quelques procès. Mais c'est vrai que dans tous les pays où il y a de la censure, où il n'y a pas de liberté, il y a forcément des dessinateurs. C'est pas possible qu'ils disparaissent.
Oui, il y a une créativité surtout énorme parce que du coup, on en parle sans en parler. Enfin, on en parle autrement. En Russie, en URSS, il y a quand même eu toute une tradition du dessin où on ne représentait jamais aucun homme politique, mais où il y avait tout le temps quelqu'un avec une couronne, et on sait très bien qui était quelqu'un avec une couronne, quoi. Enfin,
c'est-à-dire qu'il y avait une règle du jeu avec des codes.
Oui.
Et qui pareil, il faut connaître les codes. Qui continue encore. Bon, tout. Oui.
Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, tout à l'heure, vous avez dit, Monsieur Blaise, que le dessin de presse, en fait, était fait pour finir un peu à la poubelle, quoi. Enfin, en gros, on lisait un journal et on le jetait.
C'est une caricature.
Enfin, bon, c'est un peu une caricature.
C'est évidemment une caricature.
Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du cas du dessinateur Steinberg, qui en fait a fait une sorte de glissement du dessin de presse à finalement à des dessins qui sont aujourd'hui vus dans les galeries. Donc c'est un cas assez
très bon
particulier.
Exemple.
Hein? Pardon?
C'est un très bon exemple. Saul Steinberg, c'est pas un dessinateur de presse, c'est un artiste protéiforme. C'est quelque chose de spécial dans le XXe siècle. Saul Steinberg a inspiré non seulement tous les dessinateurs de maintenant, mais
qu'est-ce que vous entendez par dessinateur de presse? Il a publié dans la presse?
Bien entendu, il a fait des reportages.
C'est quoi exactement alors à ce moment-là pour vous, un dessinateur de presse?
Non, je disais que le principe même du dessin n'est pas d'être accroché au 6 mètres, c'est tout. Mais qu'évidemment, moi par exemple, j'ai découvert ça quand j'étais ado, uniquement par les compilations de dessins que j'achetais dans les bacs solés parce que personne n'était. Parce qu'ils étaient. Ou avant d'être pilonnés, parce que personne n'en achetait. Mais c'est par là qu'on peut apprendre à découvrir doucement le dessin de presse. C'est les compilations faites par des gens de bonne volonté, par les éditeurs qui prennent des risques parce qu'ils savent que ce ne sera jamais vendu. Et c'est grâce à ça qu'on peut se créer sa propre contre-culture personnelle sur le dessin de presse. Donc ça n'a pas vocation à être jeté, évidemment. C'était une plaisanterie. Ça a vocation à être un message, comme un coup de poing dans la gueule, qui est aussi vite oublié qu'une parole, qui n'est pas destinée à être inscrite dans le marbre, quoi. Mais bien entendu, je me régale des compilations. Je me félicite des éditeurs courageux et intelligents. Par exemple, le jeune éditeur Les Arènes de faire une compile gigantesque des dessins de New Yorker. Parce que je me souviens que quand j'étais ado, quand j'ai eu une fois l'occasion d'aller aux États-Unis fouiller dans les bookstores, trouver les compiles, à part deux, trois vieilles choses de 1925, 1945, 45, 75, il n'y avait absolument rien. C'était impossible de récupérer. Donc, quand on est courageux, quand on est éditeur comme ça, je salue, magnifique, belle opération. Je ne sais pas si ça a marché, mais je crois que oui. Le dessin de presse n'est pas assez diffusé, c'est vrai. Et grâce à ça, celle-là, on connaît un peu mieux. Et on connaît donc Saul Steinberg, qui est un géant multicarte total, qui a inspiré des générations entières de graphistes, mais pas que des dessinateurs en plus. Mais ça, c'est un cas de figure à part, évidemment. Peu ont fait école comme lui. Je crois que l'exposition des dessins de New Yorker, juste après guerre, a influencé toute la génération qui a bu, ciné, etc. C'est de là qu'est né le dessin de presse français. Et ensuite, les nouveaux dessinateurs qui viennent de là viennent de cette deuxième génération. Donc, Saul Steinberg est à l'origine. Je ne vais pas remonter aux grottes de Lascaux pour expliquer d'où viennent les sources de chacun, mais c'est évident que là, c'est un maelstrom de création venu aux États-Unis qui est absolument incomparable et qu'on ne peut pas assimiler à un dessinateur de presse. De la même manière qu'un jour, on dira que William était un fantastique graphiste, quand on mettra parce que sa gestion des surfaces, des codes visuels, des noirs et des blancs affichés à leur limite, permet d'exploser tous les codes du dessin dit de presse, entre guillemets, avec personnages en pied, scènes de théâtre, bulles et en plus légendes, pour ceux qui n'auraient pas compris, quoi.
Je crois que dessin de presse, c'est un peu trop générique, parce qu'effectivement, ouais. On a le dessin de presse d'actualité, on a le dessin de presse d'illustration, on a le dessin de presse d'humour, on a le. Je veux dire que la palette est assez large, donc. Puis bon, tous ne sont pas des artistes et tous ne.
Exactement, mais c'est ce qui définit le dessinateur qui travaille dans la presse, c'est qu'il peut être 50% artiste et 50% journaliste. Alors pour certains, la part d'artiste va jusqu'à 70%, c'est des gens comme Willem, et après les 30%, enfin les deux sont mêlés, mais. Et d'autres privilégient plus le journalisme, l'idée, le dessin simple et efficace. Mais c'est vrai que les dessinateurs sont toujours partagés entre l'artistique et le journalisme, quoi.
Je peux pas mettre une autre insiste, c'est sur la narration. La technique du dessin elle-même n'a pas tellement d'importance. Les très très bons dessinateurs de presse sont parfois des mauvais dessinateurs. Là-dessus, c'est assez drôle de voir que justement Saul Steinberg, par la simplicité totale de son trait, a fait école parce que certains ont cru qu'en faisant pauvre, ils allaient faire simple. Et en fait, non. Mais si jamais ils avaient des choses à dire, ce n'est pas très très important. Par exemple, Jacques Rouxel, il dessine mal, il le dit. Il aime beaucoup Saul Steinberg, il le dit aussi. Et il fait des petits dessins animés de 3 minutes qui sont des chefs-d'œuvre absolus de drôlerie et qui sont peut-être un peu mal dessinés. C'est pas très grave en fait. L'essentiel, c'est plutôt ce qu'on a à dire qui compte. Et que le propos ne soit pas vampirisé par une super technique. Les gens qui dessinent, quand ils traversent le vent de l'histoire comme Marjane Satrapi l'a fait pour Persepolis, il n'a pas besoin de très bien savoir dessiner. Marjane, désolé de te le dire, tu dessines pas très très bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? L'essentiel, c'est que tu racontes bien ton histoire et tu le fais très bien. Archie Spiegelman, c'est pareil. Il a une culture du collage, une fantastique culture encyclopédique du graphisme qui lui permet, par des pirouettes comme ça, de faire des magnifiques unes du New Yorker. C'est pas forcément non plus un virtuose. Ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est ce qu'on a à dire. Et même si on ne sait pas dessiner, on peut quand même se lancer.
Oui, mais enfin, je veux juste revenir, par exemple, si on prend le cas de Daumier. Daumier était bon, un dessinateur de presse, il avait une production énorme, et en même temps, il doublait ses dessins de presse par des gravures, des lithos qui vendaient à côté des journaux. On pourrait imaginer ça aujourd'hui pour.
Il était peintre aussi.
Oui, il était peintre vers la fin de sa vie. Mais enfin voilà, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est le glissement qu'il peut y avoir entre, par exemple, Willem expose aussi, mais il peut y avoir, pour un dessinateur de presse, il peut sortir du journal et exposer ses travaux.
Il n'y a aucune loi. Tous ces gens-là sont des artistes, ils font ce qu'ils veulent.
Il y en a beaucoup qui le font.
Il n'y en a pas beaucoup, oui. Justement, malheureusement.
Certains sont des sculpteurs, des montages, des films, ils font ce qu'ils veulent.
Si on prend quelqu'un comme Desclozeaux qui fait du dessin de presse dans Le Monde, il fait aussi de la création artistique quand il fait une couverture de livre ou quand il fait une affiche.
Oui, tout à fait. C'est très bien qu'il le fasse.
Et il y en a beaucoup. Et même un dessinateur de Libé qui était sous l'as quand il est arrivé à la retraite s'est mis à faire de la peinture, s'est mis à exprimer sa part artistique beaucoup plus que la part dessin de presse liée à l'actualité, quoi. Je pense qu'on va terminer. Enfin, il y a d'autres questions. On va juste poser une question à chacun de nos interlocuteurs. Une solution pour trouver un avenir au dessin de presse. Une solution chacun. Très bien.
Non, mais moi, j'ai une idée. Ah. Je trouve que la presse régionale, par exemple, devrait, et je suis prête à le faire pour elle avec mon agence de dessin, publier chaque fin de semaine, la semaine, en 6 dessins. Avec 6, 7 dessins de l'actualité mondiale hexagonale, avec 3, 4, 5 lignes de commentaires, qui serait un très bon truc pédagogique, parce que malgré tout, bon, les mômes, les ados, ils verraient le journal de leurs parents, ils regarderaient, puis on leur dirait, tiens, lis-le, t'apprendras au moins 3 trucs sur ce qui se passe. Et donc, ça serait à la fois ludique et pédagogique, et je pense que ça serait bien le travail de la presse régionale de faire ça.
On va demander à Faujour. Excuse-moi de te réveiller. Une solution pour que le dessin de presse ait un avenir. Voilà, c'est la réponse.
Je sais pas. Moi, l'avenir, je trouve. Enfin, moi, la chose qui m'emballe le plus, là, c'est de dessiner en direct, soit dans des débats, soit à la télé. Ça me plaît beaucoup. J'en ai un peu. Enfin, faut dire aussi que je me cogne beaucoup de presse militante. Donc, c'est pas très intéressant, c'est très limité. La marge de manœuvre, elle est toute petite. Donc, ouais, le dessin en direct, ça me plaît. Il n'y a pas trop de souffrance, c'est bien. Puis, bon, des fois, c'est tout raté. Puis, des fois, c'est un vrai bonheur. Quoi. Ouais. Là, mais alors, pareil, la place à la télé, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plein de chaînes câblées, mais je sais pas, ils font pas appel aux dessinateurs. Non, on compte pas beaucoup.
Donc, ouais. Alain Blaise.
Pardon. Décidément. Non, il n'y a pas de.
Une idée pour l'avenir du dessin de presse.
Mais ça se fera de soi-même, je pense. Ça sera c'est l'époque qui porte ses propres modes de représentation ou de contestation.
Très bien.
Ça s'appelle de soi-même dès qu'il y aura besoin, quel que soit le support, électronique, papier ou encore autre chose.
Sélection naturelle. Luce ?
Oui, alors moi, c'est pas une idée, c'est une recette. Ah. C'est que chacun, d'ailleurs vous pouvez le faire, hein, vous tous là, chacun est sur soi. Toujours un petit carnet, un crayon, c'est bon, on devrait l'avoir déjà naturellement. Et tous les jours, on se force à faire un petit dessin d'actu. Alors même quand on ne sait pas dessiner, vous verrez, ça vient très vite.
Bah. Monsieur Bernard Fournier.
Pas mieux.
Pas mieux.
Non, j'ai pas d'idée. L'œuf, la poule. Je ne sais pas qui est arrivé le premier. Donc
Bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve l'année prochaine, à peu près à la même époque. Ah, une remarque. Bonsoir.
Ça fonctionne. Oui, alors je me permettais juste d'intervenir. Je n'ai pas de réponse pour l'avenir du dessin de presse, mais en fait, je travaille pour une association qui s'appelle Paris Bibliothèque et qui produit avec la bibliothèque Fornet et un conservateur d'art graphique une exposition autour du dessin de presse à la fin de l'année. Donc autour du dessin de presse international, ça devrait s'appeler « Permis de croquer ». C'est autour de la liberté d'expression avec notamment des artistes dont vous avez parlé et donc Dilem, Willem, Viaz, Kishka, des gens comme ça donc qui devraient exposer à la fin de l'année à la bibliothèque historique de la ville de Paris avec des débats, des conférences et éventuellement un catalogue d'expositions. Donc je vous dis ceci en avant-première, puisque rien n'est encore validé au niveau de la ville de Paris, puisque la bibliothèque est un établissement de la ville. Donc c'est un projet qui est quasiment bouclé, qui attend des validations au niveau des directions, des affaires culturelles, des relations internationales. Mais donc, voilà, on serait ravis de vous voir tous là-bas.
Très bien.
Ouais. Donc de toute façon, des expositions, il y en a toujours. En ce moment, à Saint-Just-le-Martel, il y a un festival qui existe depuis 29 ans maintenant, qui rassemble beaucoup de dessinateurs. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives, mais qui sont des initiatives pour populariser le dessin de presse, mais en espérant qu'elles le feront vivre. Enfin,
ouais, c'est une initiative individuelle.
Voilà. Très bien. Donc je vous donne peut-être rendez-vous l'année prochaine, même endroit. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
À moins que vous ayez quelque chose à dire.